Le bonheur est un rêve d'enfant, réalisé dans l'âge adulte. Sigmund Freud. Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. Yves Saint-Laurent. Chapitre 1. Comme tous les dimanches midi, je ne voulais pas y aller. Comme tous les dimanches midi, je traînais des pieds. Je faisais tout pour gratter un peu de temps. Sauf que...
Iris ? Appela Pierre. Qu'est-ce que tu fais ?
C'est bon, j'arrive.
Dépêche-toi un peu, on va être en retard. Pourquoi mon mari était-il si pressé d'aller déjeuner chez mes parents, alors que moi j'aurais donné n'importe quoi pour y échapper ? Seul avantage, cela me permettait d'étrenner ma dernière robe. J'avais réussi à mettre la touche finale la veille au soir, et j'étais satisfaite du résultat. J'essayais tant bien que mal de ne pas perdre la main et d'entretenir mon doigté de couturière. Et puis dans ces moments-là, j'oubliais tout. Mon travail à la banque d'un ennui mortel, la routine de ma vie, le délitement de mon couple. Je n'avais plus l'impression de m'éteindre. Au contraire, j'étais vivante. Lorsque je faisais équipe avec ma machine à coudre ou que je dessinais des modèles, je palpitais. Je me regardais dans le miroir une dernière fois et soupirais. Je rejoignis Pierre dans l'entrée. Il pianotait sur son téléphone. Je pris le temps pour l'observer. Voilà près de 10 ans que je le connaissais. Sa tenue du dimanche n'avait pas changé d'un iota. Chemise Oxford, pantalon de toile et les éternelles chaussures bateau. « Je suis là !» lui dis-je. Il sursauta, comme pris en faute, et rangea son portable dans sa poche.
« Ce n'est pas trop tôt »
râla-t-il en enfilant sa veste. « Regarde, j'ai fini ça hier. Qu'en penses-tu »«
Très joli, comme d'habitude. »
Il avait déjà ouvert la porte d'entrée et se dirigeait vers la voiture. Il ne m'avait pas jeté un coup d'œil, comme d'habitude. À 12h30 pétante, notre voiture se garait devant la maison de mes parents. Mon père nous ouvrit la porte. La retraite ne lui allait pas. Il prenait de l'embonpoint, et sa cravate du dimanche l'étranglait de plus en plus. Il serra la main de son gendre, prit tout juste le temps d'embrasser sa fille, avant d'entraîner Pierre au séjour pour boire le traditionnel Porto. De mon côté, je passais brièvement dire bonjour à mes deux frères aînés, qui en étaient à leur deuxième verre. L'un était accoudé à la cheminée, l'autre lisait le journal dans le canapé. Et ensemble, ils commentaient l'actualité politique. Ensuite, je partis rejoindre le clan des femmes à la cuisine. Ma mère, tabliée autour de la taille, cela faisait près de 40 ans que cela durait, surveillait la cuisson de son gigot du dimanche et ouvrait les conserves de haricots verts pendant que mes belles-sœurs s'occupaient du déjeuner de leur progéniture. Les plus petits au sein, quant aux plus grands, ils interrompirent leur repas de fête, pommes de terre dauphine et tranches de rôti froid, pour faire des bisous à leur tante. Je donnai un coup de main à ma mère, j'essorais la laitue et préparais la vinaigrette en les écoutant toutes les trois cancaner sur Madame Intel, qui avait fait un scandale à la pharmacie, ou sur Monsieur X, à qui on avait découvert un cancer de la prostate. Et ma mère qui disait suivant le cas « Elle devrait avoir honte de se comporter comme ça, ça ne se fait pas !» ou « C'est quand même malheureux, si jeune !» De mon côté, je restais silencieuse. Je détestais ces commérages. Je le restais tout autant durant le repas. Présidé comme toujours par mon père. De temps à autre, je jetais un regard à Pierre, qui se sentait comme un poisson dans l'eau au milieu de ma famille, pourtant si ennuyeuse et à l'opposé de mes envies. Pour me distraire, je faisais le service, comme lorsque j'étais la jeune fille de la maison. Pour cause, nous étions les seuls sans enfants. Lorsque je revins à table avec le plateau de fromage, une de mes belles-sœurs m'interpella.
« Iris, ta robe est superbe ! Chez qui l'as-tu trouvée ?»
Je lui souris. Et sentit enfin le regard de Pierre sur moi.
Elle vient de mon grenier.
Elle fronça les sourcils.
Je l'ai faite moi-même.
C'est vrai, j'avais oublié que tu cousais un peu.
J'eus envie de lui répondre qu'elle n'était pas la seule, mais je m'abstins. Aucune envie de faire un esclandre aujourd'hui.
Tu es vraiment douée, je suis épatée. Tu crois que tu pourrais m'en faire une ?
Si tu veux, on en reparlera. Son idée de porter une robe relevait pourtant du miracle. Relooker ma belle-sœur était un défi que j'aurais apprécié relever. Elle s'obstinait à camoufler ses formes voluptueuses, cadeau de ses grossesses, en s'affublant de pantalons et pulls informes. Le silence qui suivit jeta un froid. Je préférais reprendre ma place à table et ne pas m'étendre sur le sujet. C'était dur de me retrouver confrontée à mon rêve brisé.
« C'est quand même dommage qu'Iris n'ait pas fait son école », dit mon frère aîné.
Je reposais mon verre avant d'avoir eu le temps de boire une gorgée de vin. Je penchais la tête sur le côté en le regardant. Il avait l'expression de celui qui vient de commettre une bourde. Je me tournais vers mes parents, qui, eux, ne savaient plus où se mettre. « De quelle école vous parlez ?»«
Tu as mal compris, » répondit ma mère. « Ton frère est juste en train de dire que tu aurais pu réussir dans ce domaine. »
Je ricanais. « C'est vrai, maman, vous m'avez beaucoup soutenue. Je devrais m'en souvenir. » Je fus propulsée plus d'une dizaine d'années en arrière, lorsque je lui avais confectionné une tenue de cérémonie complète. J'aurais eu moins mal ce jour-là si elle m'avait giflée.
« Iris, tu ne veux quand même pas que je porte cette fripe au mariage de ton frère ? De quoi aurais-je l'air ?»
m'avait-elle envoyé en balançant la robe sur une chaise. « Maman, essaye-la au moins, » l'avais-je suppliée. « Je suis sûre que tu serais belle dedans. J'y ai passé tellement de temps. Tu aurais mieux fait de te concentrer sur tes révisions, vu le résultat. » La voix de mon frère me ramena au présent. Il scrutait mes parents, et semblait désormais satisfait d'avoir évoqué ce sujet de discorde entre eux et moi durant toute mon adolescence.
« Non, mais franchement, dites-lui, il y a prescription depuis tout ce temps, ça ne va pas changer sa vie.
Est-ce que quelqu'un ici pourrait m'expliquer de quoi il s'agit ?» m'énervais-je en me levant de table.
« Papa ? Maman ?»
Mes belles-sœurs lancèrent un regard interrogatif à leurs maris respectifs et se levèrent. Les enfants avaient comme par hasard besoin de leur mère. Pierre se leva à son tour, vint me rejoindre et me prit par les épaules.
« Calme-toi », me dit-il à l'oreille, avant de se tourner vers ma famille.
« C'est quoi cette histoire ?»«
C'est bon, je m'y colle »,
intervint mon frère aîné après avoir vérifié que les enfants étaient éloignés. « Iris, tu as postulé à une école de couture à la fin de tes études sans en parler à personne.
Comment le sais-tu ? Et puis, de toute façon, ils m'ont refusé. »
Tu as cru que tu avais été refusé, parce que tu n'as jamais eu de réponse. C'est là que tu te trompes.
Une boule se forma dans ma gorge. Je commençais à trembler.
Tu as été accepté, mais tu ne l'as jamais su. Comme dans un brouillard, j'écoutais mon frère me raconter que nos parents avaient ouvert mon courrier et qu'ils avaient découvert ce que j'avais préparé dans leur dos. Je m'étais dit à l'époque qu'une fois que j'aurais fini cette maudite école de commerce dans laquelle ils m'avaient inscrite de force, alors que je ne rêvais que de machines à coudre et de maisons de couture, je serais libre de faire ce que je voulais. Après tout, j'étais majeure et vaccinée, et ils n'auraient plus leur mot à dire. La réalité était tout autre, et je ne l'apprenais qu'aujourd'hui. Ils avaient décidé de se débarrasser de la fameuse lettre. Ils l'avaient brûlée. Ils m'avaient trahi. C'était comme si je venais de passer sous un rouleau compresseur. Mes propres parents m'avaient volé ma vie. Je chancelais sur mes jambes et retins la nausée qui monta. La sensation de ma lettre fut vite dissipée. La fureur enflait.
On est désolé, on aurait dû intervenir à l'époque.
Je me moquais des excuses de mes frères. Ils n'avaient jamais eu à subir l'autorité de mes parents. Déjà parce qu'ils étaient des garçons. Ensuite, ils avaient choisi le droit et la médecine. Forcément, ça collait mieux dans l'esprit de nos géniteurs. Je me tournais vers eux, prête à les mordre, prête à leur sauter à la gorge.
Comment avez-vous pu me faire une chose pareille ? Vous êtes...
C'est dégueulasse.
Ta lubie pour la couture a toujours été ridicule,
me dit froidement mon père.
Nous n'allions pas te laisser finir ouvrière dans une usine de confection.
Avec cette école, je n'aurais pas fini à l'usine. Et quand bien même, si c'était ce que j'avais voulu, le petit peuple vous dérange ? Vous n'aviez pas le droit d'intervenir, de choisir pour moi et de tout détruire.
Toutes ces années, j'avais mis mon échec et ce pseudo-refus sur le compte de mon incompétence. J'avais cru que je n'avais rien entre les mains, que je n'avais pas une once de talent pour la couture. Et pourtant, je m'évertuais encore à manier l'aiguille, à m'améliorer. J'aurais pu faire tellement mieux. Sans eux, je ne végéterais pas dans une banque.
« Iris, ça suffit maintenant !» me dit ma mère d'une voix cinglante. « Tu as quel âge ?»« Vous avez passé votre temps à me rabaisser !»
leur criai-je.
« Vous n'avez jamais cru en moi !»« Nous avons fait ce qui était le mieux pour toi !» Tu n'as jamais eu les pieds sur terre. Comment aurions-nous pu te laisser faire ça à 6 mois de votre mariage ? La date était fixée, les faire-part préparés, ta robe commandée.
Mon petit Pierre, vous pouvez nous remercier, intervint mon père.
Ne me mêlez pas à cette sale histoire et ne comptez pas sur moi pour vous remercier. Comment des parents peuvent-ils trahir leur enfant à ce point ? Vous parlez du mariage ?
Eh bien justement, nous aurions dû parler de tout ça tous les deux, Iris et moi. Vous n'aviez pas le droit d'intervenir pour elle. C'était mon rôle, ma place.